Mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil municipal, de conseil communautaire. C'est que le conseil municipal sera la semaine prochaine pour moi, alors c'est pour ça que j'anticipe. Je vais procéder à l'appel. Pierre Allard présent. Anne-Marie Almoster Rodriguez. Quoi ? C'est pas elle, oui. Mais elle va arriver. Johan Balestra. Excusez. Christine Ballet. Hervé Baudet. Laurence Beige. Laetitia Calandro. Mireille Chabot. Fabrice Chaminade a donné procuration à Anne-Marie Almoster Rodriguez, donc qui devrait nous rejoindre. Laurence Chazelas a donné procuration à Thierry Granet. Anne-Sophie Chazelle. Pascal Cluzot. Lucien Coindo, Édouard Coquillot, Nadège Coucot, Eliane Crossi a donné procuration à Didier Lequief, Annie Dardillac, Frédéric d'Auvergne, Bernadette Desroches, Jean Duchambon, Alain Favreau, Alex Gerbeau, Thierry Gouraud, Jean-Pierre Granet, Thierry Granet, Fabien Brias, Philippe Lacroix, présent. Vanessa Lanette Michaud, présent. Claudine Latière, Didier Lequief, Isabelle Milor, Joël Pichon, Vola Rakoto Maefa, j'espère ne pas m'être trompé, Benoît Sadri, Raymond Vouzelot. Donc, je vous fais circuler la feuille de présence et la signature pour la séance précédente. Vous avez...
Oui, Monsieur le Président, s'agissant de l'absence de Johan Balestra, je crois qu'il a dû remettre sa procuration, même, peut-être tardivement, mais...
Oui, alors le problème, c'est que la procuration devrait nous être mise en main propre, conformément au règlement intérieur, dans les délais, et qu'on ne l'a pas. Enfin, moi, je ne l'ai pas. Si elle a été remise, c'est après 16h cet après-midi.
J'ai un mail à 16h52 qui n'est pas ouvert.
Donc, moi, je suis désolé, mais bon, on a un règlement intérieur, on l'a voté. Il faut qu'on essaye de le respecter. Voilà. Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... toutes les procurations qu'on a, elles sont notées sur mon... Vous pouvez le constater, elles sont notées sur mon document. Hein. Si je n'ai pas le document assez tôt, on ne note pas la procuration. Et elle doit être constatée à l'entrée de séance, c'est-à-dire que conformément au règlement intérieur, à l'entrée de séance, si on me remet la procuration par écrit, je la prends en entrée de séance.
Madame
exceptionnellement.
Chazelle, c'était à vous, vous ne l'avez pas ?
Donc pas de procuration, on va le noter, excusez. Secrétaire de séance, dans l'ordre du tableau, notre collègue Pascal Cluzot. Vous avez le conseil communautaire qui est le PV du conseil communautaire du 17 décembre 2020. Est-ce qu'il y avait des remarques par rapport à ce procès-verbal ? Pas de remarques. Je vous propose donc son adoption. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie et je signale l'arrivée de Anne-Marie Almoster. Elle n'a pas encore passé la porte, mais c'est pour l'enregistrement. Donc elle va passer la porte dans quelques secondes. Nous avons modifié l'ordre du jour en annulant une délibération qui était prévue sur table. C'est la cession et acquisition de terrain entre la communauté de communes Porte-Océane du Limousin et la maroquinerie du Sud-Ouest. Alors simplement parce que nous n'avons pas reçu le document des domaines avec le nouveau découpage parcellaire, parce qu'il nous faut les nouveaux numéros du découpage parcellaire. Ça ne change rien en soi, mais nous n'avons pas les nouveaux... le nouveau découpage, donc on le passera. Si c'est vraiment urgent, on va voir avec la maroquinerie du Sud-Ouest. Et si cela nécessite une séance rapide pour qu'ils puissent commencer leurs travaux, nous vous convoquerons juste pour un dossier ou nous le ferons en visio pour un dossier. Nous verrons une fois que nous aurons reçu le document du service des domaines. On pensait l'avoir reçu, mais ce n'est pas le cas. Donc je vous propose de passer tout de suite à l'ordre du jour. Le premier dossier qui concerne La châtaignerie limousine et le retrait de la communauté de communes Porte Océane du Limousin. Notre collègue Jean Duchambon.
Oui, chers collègues, dans le rôle du méchant, je veux bien remplir finalement cet office. Je crois que moi, j'avais demandé finalement au président lors du dernier conseil communautaire de le...
Je m'excuse, on va juste signaler l'arrivée de Monsieur Gouraud, c'est pour notre enregistrement.
On lui souhaite la bienvenue. Donc, de l'intégrer donc comme dans les propositions diverses, pour nous retirer de la châtaignerie limousine. On ne va pas refaire l'histoire. Structure intercommunale d'il y a quelques années qui nous avait finalement bien facilité les choses au niveau de l'intercommunalité, mais qui maintenant a du mal à remplir son office et qui n'est plus finalement force, à mon sens, de proposition et qui n'est plus l'instance comme nous le souhaitons de contractualisation future avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc nous assistions encore avec Pierre il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, à une réunion de bureau, et on a pu s'apercevoir que la châtaignerie limousine était une instance finalement qui pouvait servir à certaines intercommunalités du territoire comme Saint-Thirié, comme peut-être Nexon, mais qui, d'après ce que j'ai cru entendre, souhaitaient aussi interrompre leur coopération dans les mois à venir. Hein. On ne peut plus, c'est plus entendable d'avoir une structure qui est un peu le censeur des fonds régionaux et des fonds européens, alors qu'on sait pertinemment que la force de frappe se situe en termes d'investissement au niveau des communautés de communes. Donc je ne vais pas refaire l'argumentaire que j'avais fait lors du dernier conseil communautaire. C'est simplement que ce soir, nous avions émis un vœu la dernière fois et qui était passé dans les questions diverses. Et ce soir, c'est acté comme étant une délibération pour pouvoir sortir donc de cette fédération et de se laisser un an pour pouvoir intégrer les personnels, pour pouvoir contractualiser, enfin faire une demande de contractualisation avec la région Nouvelle-Aquitaine et de pouvoir s'organiser également par rapport au traitement de tout ce qui peut être fonds européens et de ne pas laisser aussi des territoires comme Montchalut, comme Pays de Nexon. C'est les mêmes d'ailleurs maintenant. Ils sont mariés déjà depuis quelque temps. Et Pays de Saint-Thirié dans la peine par rapport au personnel. Et je crois qu'il faudra finalement essayer de s'entendre par rapport à une séparation amiable dans les quelques mois qui viennent et nous structurer. Sachant qu'on n'aura aucune peine de notre côté, étant donné que nous avons le schéma de cohérence territoriale qui pourra être l'instance de contractualisation avec la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà.
Bien, je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur d'Auvergne ?
Monsieur le Président, Monsieur Duchambon, vous parliez donc de la contractualisation à venir donc entre la région et le SCOT. Donc, je m'interroge quand même sur la puissance de feu de ce SCOT par rapport donc à la châtaignerie limousine, savoir est-ce qu'ils auront la capacité donc à monter ces dossiers, à capacité aussi à recueillir les fonds européens. Donc voilà, je souhaitais quand même que vous nous éclairiez là-dessus sur cette capacité-là.
Je crois qu'on s'est posé exactement les mêmes questions. C'est la question que s'est posée également finalement Charente-Limousine, c'est-à-dire la communauté de Charente-Limousine qui fait partie de notre SCOT, qui a contractualisé directement avec la région, qui a réussi d'ailleurs. Et en expliquant que ce sont les communautés de communes qui ont la capacité d'investissement. Ce sont les communautés de communes qui sont force de projet. Hein. Ce ne sont pas des structures de développement comme la châtaignerie limousine. Je vais essayer d'être poli. La châtaignerie limousine s'auto-alimente en termes d'études. C'est-à-dire qu'on produit de l'étude au profit des communautés de communes, alors que nous avons toute capacité de pouvoir le faire. La Châtaigneraie-Limousine, je vous avais donné l'exemple de certains projets, ça peut être l'exemple de la Cité du Cuir d'ailleurs, hein, où la Cité du Cuir finalement, où la communauté de communes Porte-Océane du Limousin s'est débrouillée pour négocier avec la région, pour négocier avec l'Europe, pour négocier avec le conseil départemental, négocier avec l'État, arrive à 80% de subventions, c'est-à-dire au taquet de subventions de fonds publics, et du fait de la contractualisation, est obligé de lever le doigt pour demander l'autorisation à une structure de développement telle que la Châtaigneraie-Limousine de pouvoir faire l'opération. Vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, quand on est payeur et quand on dit finalement on est financeur, c'est fortement désagréable d'être obligé de demander l'autorisation. Je ne dis pas, la Châtaigneraie-Limousine a une force de frappe qui est maintenant... Non, elle est plus réelle. Hein. Le SCOT, pour répondre à votre question, le schéma de cohérence territoriale, oui, je pense qu'il va pouvoir contractualiser avec la région dans les... faudra voir, parce qu'on a, on a une problématique, c'est effectivement les élections régionales. On ne peut pas actuellement demander de contractualiser et d'avoir finalement aussi une réponse avec une équipe dont on ne sait pas ce qu'elle sera à partir du mois de juin, me semble-t-il. Mais à l'avenir, oui, on espère bien finalement que ça va être le nouvel espace de contractualisation. Pour preuve, là, j'arrête, non, Pierre, non. Pour preuve, la communauté de communes Ouest Limousin nous suit puisque elle a pris exactement, non pas la même délibération, enfin, je ne sais pas si c'est la même délibération, peut-être pas tout à fait la même, mais la même décision, et un courrier a été envoyé également à la Châtaigneraie-Limousine. Donc je n'ai aucune crainte pour cette contractualisation, et le schéma de cohérence territoriale correspond à un bassin de vie. Je ne vois pas comment la région Nouvelle-Aquitaine pourrait faire l'impasse sur un bassin de vie qui représente 75 000 habitants.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité. Toujours notre collègue Jean Duchambon pour l'exercice de la compétence mobilité à l'échelle de la communauté de communes.
Ben, c'est pas que ça se rejoint, mais bon, nous avions avec Aurélie Réjas une vision conférence pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais plus. J'ai plus la mémoire finalement des dates, pour parler justement la Châtaigneraie-Limousine. Vous voyez l'incohérence du sujet. La Châtaigneraie-Limousine nous avait invités pour une visioconférence par rapport à la compétence mobilité, en sachant que cette compétence mobilité, on doit prendre une délibération avant le 31 mars pour savoir si on la garde, enfin si on la prend au niveau des communautés de communes, ou si on la laisse à la région Nouvelle-Aquitaine, qui actuellement, finalement, l'a eu par délégation de l'État. La Châtaigneraie-Limousine a diligenté une étude, justement, pour savoir le bien fondé de la mobilité sur notre territoire et le bien fondé de la prise de cette compétence. Et voilà où on en est, c'est-à-dire qu'on va... On est actuellement, par rapport à cette étude, à l'état des lieux. Donc l'état des lieux, ben, on le connaît. On vient de le définir là, aujourd'hui. Ce que l'on aura à faire par rapport à la mobilité dans les quelques mois qui viennent, avec un plan d'action. On peut tout à fait comprendre que, d'une part, les équipes régionales, telles que je viens de vous le dire, vont être renouvelées à partir du mois de juin, qu'on doit... prendre cette compétence mobilité ou ne pas la prendre finalement en fonction des bassins de mobilité qui vont être définis par la région Nouvelle-Aquitaine, qui ne sont, enfin, je parle sous couvert de notre collègue conseillère régionale, qui ne sont pas encore définis finalement par la région, dont on ne sait pas. Donc ça peut correspondre, enfin, il serait incohérent que ça ne corresponde pas au bassin de vie tel que je viens de vous l'évoquer il y a 5 minutes. Donc, tout ça est fort confus. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, qui va dans le droit fil, finalement, de dire la châtaigneraie limousine, bon, on se sépare, mais est-ce qu'on a intérêt à reprendre cette compétence mobilité? À mon avis, moi, il est urgent d'attendre, tel qu'il vous est proposé dans les délibérations. Je peux vous en donner lecture, point par point. Important de prendre notre temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas irréversible. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on ne l'apprend pas aujourd'hui qu'on ne pourra pas avoir des compétences séparées d'une compétence globale. Ça ne nous empêchera pas de pouvoir faire du petit transport à la demande si on a envie de le faire. Ça ne nous empêchera pas, et ça rejoint la première délibération, c'est-à-dire d'avoir une négociation avec la région Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir se dire... Allez, la région a une vue globale. La région, finalement, aura dans quelques temps une compétence par rapport à la, j'aurais tendance à dire, la grande mobilité. Par exemple, la voie SNCF entre Limoges et Angoulême, sur les routes également, sur des problématiques, finalement, de transport scolaire. Et nous, on pourra peut-être développer une mobilité à la mesure de notre territoire. Mais tout dépendra de la négociation et du conventionnement à venir que l'on pourra faire avec la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu comme ça que l'on voit les choses, parce que l'État nous forcerait peut-être à aller sur cette compétence mobilité. Je le redis, les bassins de mobilité ne sont pas définis, donc on ne sait pas finalement comment ça va se passer sur les différents territoires. On sait que la région Aquitaine nous reversera à partir du moment où on ne prend pas cette où on ne lui enlève pas cette compétence, 4 euros par habitant, c'est à peu près ça, selon les bassins. Ça ne sera peut-être pas tout à fait ça, parce que pour les deux communes qui sont sous l'influence de Limoges, parce que vous voyez que là aussi, on a bien fait de se détacher, parce qu'avec mon collègue Philippe, et la commune de Saint-Victurnien et la commune d'Oradour sont encore sous influence de Limoges, donc on nous compte encore, finalement, dans l'agglomération, et on n'est pas forcé, finalement, à avoir les compensations complètes au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et au niveau de l'État. Mais ce qui importe, c'est que l'on puisse avoir un développement sur notre territoire adapté, à mon sens, en négociation pleine avec la région. Imaginez, à terme, qu'on se froisse avec la région Nouvelle-Aquitaine et qu'on dise, on reprend toute la compétence et on vous estime, non pas incompétent, mais on n'a pas besoin de vous. La réponse de la région peut être, vous vous débrouillez avec votre transport scolaire, vous vous débrouillez avec votre ligne à terme, Limoges-Angoulême, la ligne ferroviaire, puisque on ne sait pas ce qui va être, mais peut-être que, j'ose espérer que dans les promesses électorales futures, on puisse nous dire, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, on reprend à la fois la partie commerciale ferroviaire, mais une partie infrastructure. Non ? Bon, il faudra bien négocier. Mais ça pourrait être ça, et si on a la pleine compétence, finalement, et si on la prend, par exemple, ce soir, je peux vous dire que la région aurait tendance à nous dire « débrouillez-vous avec l'État, négociez vous-même toutes les problématiques de mobilité ». Par contre, ça ne nous empêchera pas, ce que je voulais vous signifier en conclusion, de pouvoir développer localement un plan mobilité, un plan vélo, un plan finalement chemin pédestre, un plan covoiturage qui pourra se faire d'une façon indépendante. Voilà. Mais quand je dis que si on nous redonne finalement tout le côté ferroviaire, on n'aura jamais la possibilité financière de pouvoir assurer cette compétence à plein. Voilà.
Je remercie le rapporteur qui a été complet. Je rajouterai juste un petit point, malgré tout, c'est que il faut bien être conscient que, parce que la loi est très subtile, que la création de voies vertes, par exemple, ou de voies pistes cyclables et autres, peut se réaliser, parce que ça, c'est de la compétence voirie et pas de la compétence mobilité. Hein, c'est toute la différence.
Oui, et un autre, si vous voulez, on peut agir avec, enfin, en point de détail, mais ce qu'on ne va pas faire ce soir, parce que sinon ça nous prendrait tout le conseil communautaire, on aura tout loisir de pouvoir tourner les compétences comme on le voudra au niveau de nos communautés de communes. Le déplacement, par exemple, scolaire, le déplacement périscolaire pourra tout à fait rentrer dans une compétence, je dirais, sociale. Donc on pourra toujours amener les enfants de nos écoles vers notre piscine, vers notre centre culturel, et les enfants de nos centres de loisirs vers des animations diverses. Rien n'empêchera de le faire.
Très bien, est-ce qu'il y a des questions ? Je vais donc passer au vote. Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Nous poursuivons avec la réhabilitation de ruelle ancienne à Rochechouart. Monsieur Lacroix.
Merci, Monsieur le Président. Donc, délibération qui porte sur une demande de subvention au département au titre des CDDI, contrat départemental de développement intercommunal, dans le cadre de la réhabilitation de ruelles anciennes de la commune de Rochechouart. Elles vous sont indiquées ici dans la délibération, la rue Charles-Poitevin, la traversière Chabaudy, de Prunes, ça se prononce comme ça, des remparts, place des Prières, rue des Fourbanneaux, des Prières, des Jardins. Donc la commune de Rochechouart, effectivement, donc, réhabilite ces anciennes ruelles. Le projet global est de 513 102 euros et la demande de subvention auprès des CDDI serait de 30% et représenterait une somme de 153 931 euros. Donc l'objet de la délibération, c'est de nous permettre d'inscrire effectivement cette demande de subvention dans le cadre des CDDI.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. On poursuit avec les bords de Vienne.
Oui, les bords de Vienne avec une demande de subvention pareille au titre des ces chemins piétons des bords de Vienne, je regarde, voilà. Au titre des CDDI et au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc ça s'inscrit effectivement dans le cadre de la requalification d'anciennes friches industrielles. Vous avez un certain nombre de travaux, je vais vous passer la lecture de la délibération, mais vous avez un certain nombre de travaux qui sont prévus. Dégagement de végétaux, mise en forme de la partie supérieure des berges, réalisation de la bande de circulation piétonne, pose d'un ponton, création de noues et fossés d'évacuation, végétalisation des berges et en option éclairage public et réhabilitation des clôtures et pose de mobilier. L'enveloppe financière globale est de 252 275 euros. Il y a d'une part effectivement une tranche ferme et une tranche conditionnelle à hauteur de 41 875 euros. Sur la page 8, vous avez effectivement le plan de financement qui vous est présenté, la DETR à hauteur de 25% et au niveau des CDDI à hauteur de 20%, ce qui nous ferait un total de financement public à hauteur de 45%.
Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc ça, c'est le cheminement piéton, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, en bord de Vienne, sur... Alors, côté Vienne, entre la Vienne et les bâtiments Hermès, entre le terrain entre vers Gamme-Cuir, anciennement Gamme-Cuir, jusque tout à fait au bout de la société Hermès, qui deviendra ensuite la cité du cuir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? On poursuit avec la Vergne.
Oui, la dernière délibération de la commission donc, concerne la création d'une voie de liaison d'environ 200 mètres entre la zone de la Vergne et la zone des Martines. Donc, vous avez les caractéristiques dans la délibération des principes généraux d'aménagement et les travaux vous sont indiqués ici. Une emprise foncière, l'installation de chantiers, terrassement, chaussée au pluvial, eau usée, éclairage public, distribution AEP, distribution courant faible, distribution gaz, distribution basse tension. La bloc financière globale est estimée à 572 600 euros. Dont 250 000 pour la phase 1 et 322 370 pour la phase 2. Les demandes de subvention permettraient un financement à 25% dans le cadre de la DETR pour 143 150 euros et dans le cadre des CDDI, 30% pour 171 780 euros. Il vous est donc demandé d'adopter l'inscription donc, de ces demandes de subvention.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Chazelle.
Je voulais savoir quel lien on pouvait faire entre cette voie de liaison et puis notre PCAET. C'est une voie supplémentaire pour les, principalement les poids lourds, comme il est noté. En tout cas, afin de supporter le trafic des poids lourds. Donc on imagine qu'il y aura quand même un certain nombre de poids lourds qui vont... Oui, donc je demandais quel était le lien qui était fait entre cette nouvelle voie et le PCAET, puisque ça nous permet de faire diverger le trafic des poids lourds. D'autre part, je voulais savoir un peu ce qu'il en était par rapport au confort des lotissements qui sont installés à côté de M. Bricolage, là, hein, qui vont avoir maintenant à la suite de ça, une grosse circulation. D'autre part, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais enfin, je ne vois pas de... Enfin, peut-être que c'est inclus dans la chaussée, les trottoirs, mais il n'y a pas de mention de pistes cyclables ou de voies cyclables dans les travaux d'aménagement. Et puis d'autre part, je voulais aussi savoir comment était envisagée en fait la circulation à partir, enfin venant de Limoges ou Angoulême, avec un tournant à gauche pour aller vers la zone de Lavergne et sur cette voie en fait.
Je vais te laisser la parole.
Non,
juste
vas-y,
un mot l'autre. Déjà, en venant de Limoges, ça ne change rien, parce que la voie, elle est pas faite pour... La voie, elle est faite pour, justement, en termes, si on veut parler de PCAET, c'est pour éviter qu'on se retrouve avec des véhicules bloqués à certains moments sur ce secteur-là, et donc pour avoir une circulation qui soit beaucoup plus fluide, et qui, d'ailleurs, est aussi une demande des habitants des lotissements qui sont sur cet axe-là, parce que cet axe-là ne va pas aller perturber les lotissements qui existent, il va permettre un meilleur dégagement des lotissements qui existent et il va permettre, par exemple, aux personnes qui sont dans ces lotissements qui habitent Limoges, d'éviter de revenir sur Saint-Junien pour aller à Limoges, puisque cette voie-là, c'est celle qui est en bout de Monsieur Bricolage et qui permet de revenir à la poste. Donc c'est simplement ce bouclage-là qui est d'ailleurs une demande d'un grand nombre de résidents des lotissements sur cet axe-là. Donc ça, c'est le premier point. Alors, sur la piste cyclable, je ne peux pas vous répondre. Peut-être que on vous répondra par la suite, mais ça, on regardera dans l'aménagement global, puisque vous voyez que dans la phase 2, c'est l'aménagement des trottoirs, et donc c'est sur cette phase-là qu'il y aura vraisemblablement quelque chose qui sera prévu. Mais ce lien, quand vous me parlez du PCAET, je veux dire que le lien, c'est le bouclage. Ce n'est pas pour les poids lourds, c'est pour boucler cette zone, c'est-à-dire que quand on est, je vais vous prendre l'exemple de la Poste par exemple, le nombre de personnes qui vont au centre de tri aujourd'hui pour aller chercher leurs colis, leurs paquets, les particuliers et tout, au lieu d'avoir à revenir, à faire demi-tour, à monter au rond-point du pavillon pour après redescendre sur Saint-Junien, ces personnes-là, ils boucleront pour revenir sur Saint-Junien directement. Donc je ne vais pas vous faire le calcul de l'économie que ça peut avoir en termes de parcours, de carburant et compagnie, mais ça veut dire qu'on va réduire la circulation dans un sens où tout au moins on va la fluidifier beaucoup plus qu'elle n'est aujourd'hui, en évitant les cul-de-sac, les routes sans sortie. Et puis, c'est une demande à la fois des professionnels que nous avons là-bas, et notamment du groupe de kinés qui s'est installé, puisque c'était une grosse demande qu'ils avaient au départ par rapport à leurs clients aussi, et par rapport, je vous dis, aux services postaux et à tout un tas un certain nombre de personnes qui habitent dans les lotissements sur cet axe-là, qui aujourd'hui sont obligées de faire tout le tour pour repartir vers Limoges, ou même pour venir chez eux, ça ne modifiera pas en soi l'entrée qu'il y a sur la zone de Lavergne, qui restera telle qu'elle est. Mais ce n'est pas là où on a le plus gros problème. Le plus gros problème que l'on a, c'est la sortie aujourd'hui, qui oblige à remonter au pavillon pour revenir sur Saint-Junien. Madame Dardillac.
Juste, oui, par rapport à la référence au PCAET, je pense qu'effectivement, lorsque nous serons à la rédaction des clauses techniques, des cahiers des clauses techniques particulières pour déterminer les critères d'aménagement de ces voies, il est bien évident que les axes du PCAET devront être, s'imposer et être pris en compte en à titre de référence pour déterminer les clauses techniques qui s'imposeront aux entreprises qui soumissionneront. C'est vrai qu'il faut, c'est une vigilance qu'il faudra avoir comme tous les projets que nous aurons maintenant. C'est extrêmement important. Vous avez raison.
Oui, monsieur Dauvergne. Madame, oui, vous faudrait.
Excusez-moi. Monsieur le Président, moi je vois difficilement comment on pourra fluidifier. Vous dites fluidifier, bien sûr, la zone actuelle telle qu'elle existe actuellement sur la partie de monsieur Bricolage. Vous dites que bon, ces gens-là sont obligés de revenir sur, sur Super U et reprendre le rond-point et repartir sur Limoges. Mais moi, je m'interroge dans quelques années, et je pense qu'on va y être très proche, comment on va pouvoir, à ce tourne à gauche, accepter un flux de circulation conséquent, parce que certainement, que ça, si vous voulez alimenter donc, les lotissements, et je pense qu'il y a une zone à lotir donc, qui risque de s'agrandir, donc je me demande comment le tourne à gauche pourra absorber ce flux de circulation. Là, j'ai quand même quelques doutes. Deuxièmement, je pense que c'est quand même une zone qui est, il y a une zone archéologique. Je ne sais pas si les fouilles seront entreprises à ce niveau. Il me semble qu'il y en avait eu de fait au niveau de la ferme des Martines, me semble-t-il. Donc je voulais savoir si c'était envisagé ou pas.
Alors, pour être très clair, quand on fait des travaux, ce n'est pas nous qui décidons des fouilles archéologiques ou pas. C'est les services de l'État. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la déclaration de travaux, ce sont les services de l'État qui imposent ou non une fouille archéologique en fonction des connaissances qu'ils ont, des terrains et des terrains qui sont réputés avoir des choses intéressantes éventuellement à trouver. Donc, lorsqu'on fait notre déclaration de travaux, les services de l'État décident ou non s'il y a des recherches qui sont faites par l'INRAP par rapport aux fouilles archéologiques. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dans ce pays, y compris pour un particulier d'ailleurs, faire des travaux sans avoir l'accord de l'État et donc sans avoir éventuellement une obligation ou non de fouilles archéologiques qui nous est imposée. Donc comme il y a déjà eu sur le site de l'Avergne un certain nombre de fouilles archéologiques, l'État a un schéma cartographié très précis des lieux où il doit y avoir des fouilles archéologiques et en fonction des demandes de travaux qui lui arrivent, eh bien, il impose ou il n'impose pas de fouilles archéologiques. Ça, c'est la loi, je veux dire. Donc, c'est même pas nous qui décidons. Et je peux vous dire qu'on n'a pas connaissance, d'ailleurs, de cette cartographie, puisque c'est une cartographie qui est réalisée par l'INRAP et qui est à disposition, alors je ne sais plus si c'est de la DDT ou, enfin bref, de la DRAC et de la DDT en même temps, parce que quand on fait notre déclaration de travaux, ça part à la DDT. Donc, voilà. Donc, là-dessus. Après, sur le tourne à gauche, je vous informe qu'il y a eu des calculs très précis qui ont été faits par les services du département, puisqu'on est sur une départementale, au départ, la RD 941, qui est considérée comme une route départementale à grande circulation, et que ce tourne à gauche, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, si vous avez bien regardé, n'a jamais posé le moindre problème en termes de tourne à gauche. Ce qui nous pose beaucoup plus de problèmes, c'est la sortie au niveau Hyper-U, puisque c'est là où on a justement une concentration excessive de véhicules qui peuvent nous poser problème et qu'on essaye juste, et c'est un problème c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette voie-là, pour essayer de désengorger cette partie-là, qui pose problème avec des véhicules qui repartent sur Limoges et donc qui en même temps réengorgent la 941 à un endroit où vous vous retrouvez avec le tourne à gauche. Donc c'est-à-dire qu'on a des véhicules qui se croisent alors qu'ils ne devraient pas se croiser. Donc le fait de boucler cette zone doit éviter un croisement excessif et un engorgement excessif du rond-point qu'il y a à hauteur d'Hyper-U. Mais les calculs ont été faits. Donc aujourd'hui, ce tourne à gauche, même si on fait cette voie de liaison, il ne supportera pas plus de poids lourds ou de véhicules en entrée, sauf les particuliers qui vont aller vers le lotissement. Par contre, il permettra aussi de desservir ceux qui vont vers Limoges et qui ne gêneront pas ceux qui rentrent. Ça devrait fluidifier un petit peu plus la circulation telle que cela a été étudié. Mais je vous rassure, le tourne à gauche, et si vous regardez bien, il n'a jamais posé il n'occasionne pas de bouchons, si je puis dire, même si les bouchons à Saint-Julien, c'est quand même très relatif, mais de bouchons à cet endroit-là ou de difficultés de circulation.
Merci. Mais bon, là, moi, je vous parle donc dans quelques années. Là, j'ai bien compris qu'actuellement, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. J'y passe tous les jours. Donc, je constate bien que ce tourne à gauche, il ne pose pas de problème dans l'immédiat. Mais moi, je vous parle dans 2 ou 3 ans, lorsque cette voie sera opérationnelle. Bon, ceci dit, je veux dire, nous, Énergie, le groupe Énergie Citoyenne, on est contre toute artificialisation supplémentaire de cette zone. Et je suppose que, je ne sais pas si peut-être vous avez peut-être pensé, je veux dire, un projet peut-être plus vaste, je veux dire, si ce n'est pas un début de contournement de Saint-Julien qui s'inscrit dans ce projet-là, je ne sais pas, j'imagine. Voilà. Et juste pour vous dire qu'on s'inscrira bien sûr contre ce projet.
Très bien. D'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Donc 2, adopté à la majorité. Notre collègue Anne-Marie Almoster concernant la cession de la parcelle A2.
Oui, donc j'ai plusieurs présentations de cession à vous présenter ce soir. Donc la première concerne la cession de la parcelle A2, dite ancienne boulangerie, de la commune de Saillat-sur-Vienne. Donc, vu les statuts de notre Comcom en date du 17 décembre 2020, considérant l'avis des domaines qui était en date du 21 octobre 2020, donc considérant la demande de la commune de Saillat, représentée par son maire Pascal Cluzeau, d'acquérir 2 rues Jean-Baptiste Clément, la parcelle AD2 de 660 m2, il vous est donc de demander de délibérer sur la vente de cette parcelle au prix du 1 euro symbolique, de désigner Maître Coulot pour la rédaction de l'acte, de dire que les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur, que les crédits seront constatés au budget de l'exercice en cours, et enfin d'autoriser le président à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour mener à bien ces opérations.
Merci le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Chazelle?
Pour comprendre un peu pourquoi.
C'est très simple. Si vous voulez, tu veux répondre? Je vais laisser Monsieur Lacroix répondre.
Oui. Pardon. Oui, bien sûr.
Ça découle des modifications statutaires que nous avions adoptées lors de la dernière séance. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, Madame Chazelle. Lorsque nous avons installé le conseil communautaire, donc en 2014, puisque moi c'était mon premier mandat, donc je m'en rappelle à ce moment-là, il avait été inscrit dans les projets statutaires un certain nombre de projets. Il y avait la maison du papier à Saillat, il y avait la maison d'Oradour à Oradour-sur-Glane, et il y avait la maison des Troubadours, voilà, à Chaillac. Et la boulangerie, voilà. Alors, la particularité, si vous voulez, ce sont des bâtiments qui, pendant la mandature, n'ont fait l'objet d'aucun travaux. Et c'était le cas pour tous ces bâtiments. Donc, les communes ont souhaité, sachant que les projets actuels de la communauté de communes ne permettaient pas, on avait des projets qui dataient d'il y a très longtemps, je pense au projet de Jean Duchambon à Saint-Victurnien, on a la cité du cuir. Financièrement, la communauté de communes ne pouvait pas financer des projets de cette nature. Donc les communes ont souhaité, pour éviter justement que les bâtiments continuent de se détériorer, parce qu'ils étaient en train de se détériorer, ont souhaité les acquérir pour porter des projets municipaux au lieu de porter des projets communautaires. Alors peut-être effectivement que certains vont dire, oui mais au départ ça a coûté à la communauté de communes. Mais entre le prix d'achat, effectivement, des bâtiments à la communauté de communes et un projet, je parle par exemple du mien, le projet de la maison d'Oradour, ça aurait été un coût final pour la communauté de communes d'environ 1 million d'euros. Donc je pense qu'à terme, ça permettra de faire des économies à la communauté de communes et ça permettra aux communes de réhabiliter leurs bâtiments de manière à leur rythme. Nous, par exemple, pour la ville d'Oradour-sur-Glane et pour la maison d'Oradour, on a prévu de réhabiliter en 2 étapes. Une première étape d'abord, de travaux de réhabilitation des fenêtres qui sont en très mauvais état. On a également les fenêtres complètes. On a des réhabilitations intérieures puisque la maison est en train effectivement de se détériorer. Donc des travaux qui seront réalisés en régie municipale, principalement dans la première partie. Et puis nous inscrirons ensuite un projet beaucoup plus important. On a des idées, mes collègues Benoît Sadri, Isabelle Miller sont là pour le confirmer. À la fin de la mandature, au début de la mandature suivante, on engagera un projet beaucoup plus conséquent, effectivement, et qui coûtera, qui sera certainement une somme assez conséquente. Voilà. Voilà les explications. C'est simplement que tous ces projets inscrits dans les statuts de la communauté de communes ne pouvaient pas être totalement financés par la communauté de communes. En conséquence, les communes ont souhaité les reprendre et les réhabiliter à leur rythme. Voilà, Mme Chazelle, j'ai répondu à votre question.
Donc, ils sont sortis de l'intérêt communautaire, si vous voulez. Donc, on n'a aucune raison de garder les bâtiments. Voilà.
Tu fais voter.
Alors, je vais faire voter ce premier transfert. Donc, pour l'ancienne boulangerie sur la commune de Saillat, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Alors, on poursuit. Alors,
même chose,
on
ne
va pas vous redonner les mêmes explications, voilà, c'est les mêmes pour chacune des délibérations. Après.
Voilà, le musée du papier, donc il vous est demandé de délibérer sur la vente de cette parcelle, la parcelle AD 123 de 652 mètres carrés, AD 124 de 8480 mètres carrés, donc au prix de l'euro symbolique, et donc désigné également maître Coulot pour la rédaction de l'acte. Et les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Et les crédits seront constatés au budget de l'exercice en cours. Et il faudra que nous autorisions le président à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour mener à bien ces opérations.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a donc des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? On poursuit avec
pour la
maison d'Oradour.
La maison d'Oradour, donc la vente de la parcelle AP 237 de 450 mètres carrés, AP 238 de 1430 mètres carrés et AP 309 de 6283 mètres carrés pour l'euro symbolique. Donc nous désignerons maître Kim pour la rédaction de l'acte. Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Dire que les crédits seront constatés au budget de l'exercice en cours et autoriser le président à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour mener à bien ces opérations.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Et enfin, la maison des Troubadours.
Alors, la maison des Troubadours, c'est à Chaillac?
C'est à Chaillac.
D'accord. Donc,
c'est la parcelle A609.
A609, pardon, excusez-moi. Donc, il vous est demandé de délibérer sur la vente de la parcelle A609 de 132 mètres carrés au prix de l'euro symbolique. Désigné maître Coulot en tant que rédacteur de l'acte. Dire que les frais du notaire seront à la charge de l'acquéreur. Les crédits seront constatés au budget de l'exercice en cours et autoriser le président à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour mener à bien ces opérations.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Dauvergne.
Comme monsieur Lacroix a été convaincant sur sa partie à Oradour, monsieur Vranet, donc je m'interrogerai sur le devenir de cette maison des Troubadours. Donc. Oui.
Avec le micro, Jean-Pierre, sinon...
Oui, excusez-moi. Oui, je disais donc que la maison des Troubadours, c'est un bâtiment qui était prévu pour justement avoir cette fonction au niveau des Troubadours par rapport à l'église, pour plein de choses. Bon, ça n'a pas eu lieu. À un moment, on a pensé que ça finirait par arriver, puis ça ne s'est pas fait. Donc ce bâtiment menace, il est en plein à côté de l'église, il a besoin d'être refait. Et il sera certainement avec une vocation à usage locatif pour amener des familles jeunes, puisque c'est dans le. Et puis aussi pour faire vivre le cœur de bourg.
Vous noterez qu'il veut des familles jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des abstentions, des votes contre? Ah, pardon. Monsieur Grenier, oui.
Oui, merci, Président.
Je voulais
juste apporter une précision sur la maison des Troubadours, dossier que je connais bien pour avoir travaillé avec la municipalité de Chaillac. C'est un projet qui était porté il y a 20 ans par l'association culturelle Les Amitiés de Saint-Julien. Et la genèse de ce projet vient du fait que nous avions organisé plusieurs concerts de musique troubadour dans l'église de Chaillac, qui bénéficie d'une acoustique absolument merveilleuse. et que dans cette même église, un artiste, Gérard Zucchetto, pour ne pas le nommer, a organisé l'enregistrement d'un de ses albums par la Deutsche Grammophon. Et la Deutsche Grammophon nous avait dit, vous avez là un lieu qui est absolument magique, puisqu'on travaille aussi bien ici à Chaillac qu'en studio à Hanovre, puisque les studios de la Deutsche Grammophon sont en Allemagne à Hanovre. Et donc, de là, on a travaillé le projet de pérenniser une action culturelle autour de ce lieu de magique de musique. Et comme la maison à disposition, à côté, juste à côté de l'église, était disponible, et pour en avoir discuté avec les élus de Chaillac, il nous a paru intéressant de réfléchir à une structure qui aurait été dédiée à l'art médiéval, d'une manière générale, donc la musique, mais également tous les arts médiévaux que nous connaissons, puisque la vallée de la Vienne est singulièrement identifiée comme une vallée ayant accueilli dès le Moyen-Âge des artistes. Il suffit pour s'en convaincre de visiter les églises de Saint-Victurnien jusqu'à Chaillac pour voir des représentations troubadouresques sur elle. Donc voilà, l'idée était partie de là. La commune de Chaillac, bien naturellement, à cette époque, ne pouvant pas porter un projet aussi ambitieux que celui-là, il avait été décidé par les élus de l'époque d'en faire un projet intercommunal. Et pour les raisons qui ont été indiquées par le président et les différents orateurs, voilà, ce projet n'a pas pu se faire parce que c'est un projet de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis il fallait des partenaires, etc. Donc ce projet est tombé à l'eau, c'est dommage, mais bon, on n'avait pas les épaules, quoi, si je puis dire. D'où le fait que ce projet Maison des Troubadours, c'est pour ça qu'il s'appelait comme ça, ce projet est finalement tombé à l'eau. Et je crois que la destination qui est promise à ce bâtiment n'en sera que mieux pour l'aménagement du centre-bourg. Voilà, c'est tout, Président.
Monsieur d'Auvergne et Mme Chazelle, je voulais vous préciser concernant la Maison d'Oradour, vous le savez peut-être, mais c'est effectivement une des maisons qui a été, c'est la maison qui a été préservée le jour du massacre du 10 juin 1944. Et qui a servi de mairie provisoire. C'est dans cette maison que le général de Gaulle a annoncé en mars 1945, d'une part qu'il y aurait la conservation du village en l'état, et d'autre part qu'il y aurait la construction d'un nouveau village à proximité. Voilà, donc je voulais vous le préciser. Donc pour nous, elle a une valeur affective importante.
Et moi, je remercie mon ami et collègue Thierry Granet de vous avoir apporté toutes ces précisions. Je n'aurais peut-être pas été aussi brillant que lui, mais je le connais bien. Et nous avions fait un choix, la commune de Chaillac, quand la commune de Chaillac a poussé à acquérir l'île de Chaillac, des fois dans la vie, il faut faire des choix. Donc, on avait reculé sur les projets de la maison des Troubadours. Voilà.
Non, mais moi, je voudrais simplement, je ne vais pas en rajouter plus, mais sur l'ensemble de ces quatre délibérations, ça démontre aussi tout l'intérêt communautaire et la volonté des élus sur ce territoire, du travail en commun que l'on veut construire, c'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on ne peut pas réaliser à un moment donné ou que les nouvelles équipes ne souhaitent pas poursuivre dans un sens ou dans un autre. Mais je crois qu'on donne aussi la possibilité par ce transfert aux communes de réaliser d'autres projets d'une autre manière et d'aller au plus près de la volonté des équipes municipales. Et c'est aussi le sens de notre communauté de communes, c'est-à-dire que ce n'est pas une communauté de communes avec un but ou un aspect politique, c'est une communauté de communes qui doit avant tout réfléchir à l'aménagement du territoire et prendre en compte les demandes de l'ensemble des conseils municipaux qui composent ce conseil communautaire. Et je crois que c'est un bel exemple de ce qui peut être fait en termes de démocratie communautaire, je dirais. Je vous propose de poursuivre avec le lotissement des Rochers. Anne-Marie.
Oh, la communauté de communes à Vire. Si, c'est... Ah, pardon, c'est bon ? Ouais. Donc, alors, je reprends. La communauté de communes avait réalisé un lotissement à Saya qui s'appelle Les Rochers. Considérant la demande d'acquisition formulée par Madame Sylvia Grandchaud et Monsieur Sébastien Vergniaud pour le lot 4, parcelle AR 127 d'une superficie de 786 mètres carrés au prix de 11 445 € TTC, soit 9 537,50 € hors taxes. Il vous est donc demandé de valider la cession de la parcelle donc pour ces deux personnes, ces deux acquéreurs, dans les conditions financières précitées, de demander d'appliquer pour cette cession, le régime de la TVA classique, soit 20%, de désigner Maître Coulot notaire à Saint-Junien pour la rédaction de l'acte authentique, dire que les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs, d'autoriser le président à signer toutes les pièces et à réaliser toutes les actions pour mener à bien cette opération, et dire que cette recette sera bien évidemment constatée au budget de l'exercice en cours.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Et enfin, on termine l'économie avec la cession d'une maison d'habitation à M. Alain D'Alfonso Peral.
Alain D'Alfonso Peral, tout à fait. Vu les statuts de la communauté de communes, considérant l'occupation dans le cadre d'un bail des bâtiments situés sur les parcelles AM36, AM37, AM52, situés au numéro 6B chemin du Notre-Dame du Gau à Saint-Junien par la société Recyclamer Innovation, considérant le courrier du 21 octobre dans lequel l'entreprise précitée confirme sa volonté d'acquérir les trois parcelles précitées, considérant qu'en premier lieu le dirigeant de cette entreprise, M. Alain D'Alfonso Peral, souhaite acquérir en nom propre la maison d'habitation située sur la parcelle AM36, considérant que cette cession, il est nécessaire de diviser la parcelle, donc cette parcelle AM36, il est donc demandé de vous est demandé de délibérer sur la vente de cette maison d'habitation 6 à la parcelle AM36 à Saint-Junien au prix de l'estimation du domaine, soit 25 300 €, de désigner maître Julien Coulot pour la rédaction de l'acte authentique, dire que les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le président à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour mener à bien cette opération. Et dire bien évidemment que la recette sera constatée au budget de l'exercice en cours.
Je remercie Anne-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Notre collègue Annie Dardillac pour la signature d'une convention avec EDF. Avec le micro pour l'enregistrement. Merci.
Considérant la loi du 2002-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POP, considérant l'agenda 21 de Port-Océan du Limousin, considérant le PCAET de Port-Océan du Limousin approuvé le 19 novembre 2020, considérant le projet de convention proposé par EDF, il est exposé. La loi de programme numéro 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, a instauré l'obligation pour les fournisseurs d'énergie de faire la promotion des économies d'énergie auprès de leurs clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités, sous peine d'être pénalisés par l'État. Les fournisseurs d'énergie doivent ainsi proposer des incitations financières pour effectuer des travaux de rénovation énergétique ou visant à renforcer l'efficacité thermique des bâtiments. Poursuivant cet objectif, la loi POP confère aux collectivités territoriales un rôle de tout premier ordre en matière de maîtrise de la demande de l'énergie et de développement des énergies renouvelables. Les collectivités ont ainsi un rôle d'incitation et de prescription de bonnes pratiques énergétiques et environnementales sur leur patrimoine, comme sur leur territoire. Cette volonté est d'ailleurs exprimée dans l'agenda 21 et le PCAET de Port-Océan du Limousin, notamment dans son axe consacré à la promotion des énergies renouvelables. Dans le cadre de la présente convention, EDF propose d'accompagner les communes dans leurs besoins de rénovation, enregistrement du projet, estimation de la prime énergétique perçue. Chaque commune signera ensuite un contrat de certificat d'économie d'énergie avec EDF. Elle sera libre de choisir le prestataire de son choix pour effectuer les travaux et percevra ensuite une prime versée par EDF à l'achèvement de ceux-ci. Compte tenu des compétences exercées par Paul et de son engagement en matière de développement durable, il est proposé que la communauté de communes soit coordinatrice des projets des communes en matière de rénovation énergétique et fasse le lien avec EDF. À ce titre, les services communautaires se chargeront de saisir les projets sur le portail internet 3E mis en place par EDF. Dans ce cadre, la CCPOL devra désigner un référent unique parmi ces services pour réaliser ses prestations de saisie et de suivi des dossiers pour le compte des communes. La signature de cette convention n'empêche par ailleurs nullement Port-Océan du Limousin et chacune de ses communes de conclure d'autres partenariats avec d'autres structures et d'autres opérateurs en parallèle, si elles le souhaitent. Donc, il vous est demandé d'autoriser le président à signer cette convention que vous avez en, à la suite de la délibération.
Je remercie le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Chazel.
Juste pour savoir en fait si effectivement la Pôle a vu des possibilités de partenariat avec d'autres.
Attendez, j'entends pas. Ah. Est-ce que la Pôle
a... vu effectivement la possibilité d'autres la possibilité d'autres partenariats avec d'autres fournisseurs d'énergie dont certains qui pourraient.
Mais alors là on peut, c'est pas, si vous voulez, il est bien dit d'ailleurs que c'est de la dernière phrase de la délibération, ce n'est pas exclusif. Pour l'instant, nous avons reçu EDF qui nous a proposé cela, donc c'est une des possibilités. Si d'autres structures viennent nous voir, il y aura d'autres possibilités, effectivement. C'est une offre qu'on propose, le bureau a décidé donc, de faire cette proposition donc, qui, à l'ensemble des communes. C'est-à-dire qu'en en fin de compte, on signe la convention... Et on n'est que le relais auprès des communes pour que les communes puissent bénéficier des certificats d'économie d'énergie par la suite. Mais on peut signer d'autres conventions avec d'autres prestataires. Ça ne pose aucun problème. Donc si d'autres viennent nous voir, ça peut se faire, effectivement. Simplement, il faudra à chaque fois qu'on passe une délibération, puisqu'on ne peut pas être un peu tête de pont, je dirais, sans délibération. Voilà. Il n'y a ni engagement financier, ni engagement d'exclusivité. Il y a simplement un service qui est proposé et il peut y en avoir d'autres. Voilà. C'est pas exclusif. Et non seulement c'est pas exclusif, et je dirais que si on en a deux, trois ou quatre, les communes peuvent choisir où elles vont. Voilà. Oui, au mieux disant, celui qui offre le certificat d'énergie qui sera le plus intéressant ou la prestation qui sera la plus intéressante. Après, les communes choisissent. On ne fait que leur apporter, là, en quelque sorte, un service auxquelles elles peuvent prétendre ou pas prétendre. Mais il n'y a pas d'engagement financier de notre part, ni de la part des communes, sauf après, si elles font des travaux sur leur collectivité, à récupérer les certificats d'énergie, d'économie d'énergie. Monsieur d'Auvergne.
Monsieur le Président, je m'interroge simplement sur le fait qu'en fait, il n'y a eu qu'une offre, finalement, que celle d'EDF.
Ben, pour l'instant, oui, mais c'est-à-dire, c'est même pas des offres, ce sont des prestataires qui viennent nous rencontrer. Là, il n'y a pas d'appel à candidature, il n'y a rien, si vous voulez. C'est que, il n'y a pas de mise en concurrence, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas d'engagement financier de notre part. Vous avez dans ce pays...
On a des demandes de rendez-vous. Je veux dire, on le fait un peu au fil de l'eau, on a des demandes de rendez-vous. C'est vrai qu'on ne sollicite pas tous les prestataires pour dire, voulez-vous signer la convention avec nous.
On n'en a sollicité aucun, d'ailleurs. Hein. Non, non. Très clair. Nous, on a été chercher aucun prestataire. Donc EDF est venu nous voir, ok, bon, c'est intéressant ou pas intéressant, après les communes jugeront, hein, mais ils sont venus nous voir, il y a une convention qui permet de récupérer des certificats d'économie d'énergie dès lors qu'il y a des travaux qui sont effectués dans les communes qui rentrent dans ce cadre-là, ça rentre dans le cadre du PCAET, bon, nous on dit pourquoi pas. Si d'autres viennent nous rencontrer et ont des conventions du même type, eh bien on les passera de la même manière. Mais on ne fait, pour être très clair, on ne fait pas d'appel d'offres et on ne va chercher personne. Voilà. Monsieur Granet doit nous quitter et donne procuration à Madame Dardillac. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Notre collègue Fabien Brias pour la réserve naturelle national et l'approbation du budget prévisionnel de fonctionnement 2021.
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, donc là, nous avons trois délibérations à voir avec la réserve naturelle nationale. Donc, la première, en effet, concernant la demande de subvention auprès de l'État pour l'exercice 2021 et l'approbation du budget prévisionnel de fonctionnement. Donc, budget qui s'équilibre à 127 000 euros. Donc, il vous est demandé d'approuver ce plan de financement donc, qui est joint à la délibération, que donc les crédits suffisants seront inscrits au budget 2021, donc de solliciter la subvention auprès de l'État, à savoir le ministère de la Transition écologique et solidaire pour les actions de 2021, donc pour un montant de 58 000 euros, et autoriser le président à signer. Ah, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Et donc,
Excusez-moi pour le contretemps. Ah, ça va un peu mieux en plus, on entend mieux. Et donc d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires à ces opérations.
Bien, je remercie Fabien. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. On poursuit avec l'approbation du plan d'action.
Oui, donc plan d'action 2021. Donc considérant donc la compétence statutaire de gestion de la réserve naturelle nationale de l'Astroblème de Roche-Churchestnon, conformément donc au terme de la convention de gestion de la réserve naturelle nationale de l'Astroblème en date du 13 septembre 2016, nous proposons donc de déterminer les actions 2021 conduites par le service en charge de la gestion de la réserve. On vous demande donc d'approuver ce plan d'action 2021, tel qu'il figure en annexe. La mise en œuvre de ce plan d'action sera assurée par le service de la réserve, donc basé à la maison de la réserve, espace météorite Paul Pélas à Rochechouart, et donc d'autoriser le président à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces pour mener à bien cette opération.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc vous aviez les documents qui vous ont été fournis. Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. Enfin, on termine avec le budget prévisionnel accueil du public et éducation à l'environnement et la demande de subvention dans le cadre du FEDER.
Tout à fait. Donc, c'est une nouveauté cette année. Donc, le travail de Pierre Poupard, que l'on peut saluer d'ailleurs, conservateur de la réserve, qui a, dans ses discussions avec l'État, pu obtenir, donc c'est pour ça qu'on en fait la demande ce soir, un financement complémentaire par rapport à la mise en œuvre du programme FEDER FSE du Limousin 2014-2020, donc sur l'action de restauration et de préservation des zones naturelles remarquables sur les territoires des PNR ou dans le cadre d'un classement en réserve naturelle, donc ce qui est le cas dans notre dossier. Vous avez le plan prévisionnel de financement relatif aux actions d'accueil du public et à l'éducation et à l'environnement présenté ci-dessous, donc, qui s'équilibre à 83 000 euros. Et donc, on vous demande de valider donc ce plan et de solliciter donc l'attribution de la subvention auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, qui donc instruit le dossier FEDER FSE pour les actions 2021 d'un montant de 57 120 euros. Donc, d'inscrire les crédits suffisants au budget 2021 et d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires à l'opération.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité. On poursuit, et d'ailleurs on termine, avec l'animation du territoire, l'action culturelle et notamment le PCC. Notre collègue Thierry Granet, vous noterez simplement une toute petite modification à la fin, c'est qu'on a mis la présidente Thierry Granet, comme jusqu'à présent il semblerait que ça ne soit pas le cas, on rectifiera en mettant le président.
Je vous remercie, Monsieur le Président, puisque j'avais déjà indiqué par le passé que je ne comptais pas procéder à une opération chirurgicale. Et donc, je conserverai mon genre si ça n'ennuie personne. Bien, donc là, c'est une subvention tout à fait traditionnelle qui arrive devant nous tous les ans. Il vous est proposé donc de voter une subvention de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2021 et d'attribuer une subvention. Alors, eu égard, je vous passe les considérants. Hein, tout ça est très carré, évidemment, et s'appuie sur les différents documents signés de part et d'autre entre les différents partenaires de l'établissement public de coopération culturelle, c'est-à-dire la communauté de communes, la région et l'État. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention de fonctionnement à l'EPCC Vienne-Glane, qui ne s'appelle plus comme ça, qui s'appellera maintenant évidemment EPCC Paul, mais bon, là, voilà, on est encore sur les anciens statuts qui vont être révisés, je le rappelle. Donc, d'un montant de 922 700 euros, subvention se décomposant ainsi, 830 000 euros pour le fonctionnement de la Mégisserie, 92 700 pour le Cinébourse, d'attribuer une subvention d'investissement à l'EPCC Vienne-Glane à un montant de 15 000 euros pour l'investissement du théâtre et de fixer le loyer annuel 213 000 euros hors taxes pour le centre culturel et 52 000 euros hors taxes pour le Cinébourse pour l'année 2021. Donc vous voyez bien que l'énorme montant de 830 000 euros est à rapporter avec le montant du loyer qui est perçu, lui, par la communauté de communes. Donc ça fait des subventions autour de 600 000 euros pour l'année. Donc voilà, mes chers collègues, ce qui vous est proposé. Alors vous avez en annexe la convention portant les modalités de versement d'une subvention de fonctionnement et d'une subvention d'investissement de la communauté de communes à l'établissement public de coopération intercommunale. Vous l'avez tous lu et vous le connaissez par cœur. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais en dire.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur d'Auvergne?
Juste besoin d'un éclaircissement. C'est sur le bâtiment du Fénébourg, c'est un bâtiment communal de la mairie de Saint-Junien. Les murs.
Les murs sont propriété de la communauté de communes.
La communauté de communes. D'accord.
Vous parlez de l'EPCC.
Oui.
EPCC, les murs sont propriété de la communauté de communes.
Très bien.
C'est pour ça que vous avez un loyer, d'ailleurs, de l'EPCC vers la communauté de communes, puisque au départ, alors, c'est l'administration, j'oserais dire fiscale, qui fait qu'on pensait, nous, qu'on construisait, on pouvait mettre à disposition. Or, on nous a obligés à l'époque, donc ça date, hein, mais à l'époque, on ne pouvait pas mettre à disposition, il fallait qu'il y ait un loyer. Donc, l'EPCC, qui est un établissement public, on va dire un peu corollaire à la communauté de communes, paye un loyer, donc on verse une subvention qui comprend le loyer qui nous est reversé après. Voilà. Mais on est propriétaire des murs, hein, oui. Oui, monsieur le...
Juste pour compléter votre propos, monsieur le président. Donc oui, les locaux ont été transférés à la communauté de communes, donc ce sont bien des locaux intercommunaux. Seuls subsistent, et je parle sous le contrôle du président, mais seuls subsistent le local de l'intersyndical qui, lui, reste...
Pour le Cinébourse, mais on parlait de la Mégisserie. Moi,
je vous parle des locaux du Cinébourse.
Ah oui,
donc,
oui.
Donc il n'y a que la partie gauche du Cinébourse qui est administration communale. Le reste, c'est la communauté de communes. Et la Mégisserie, naturellement, est un bâtiment appartenant à la communauté de communes.
Voilà, et c'est là qu'on nous a, oui, on nous a imposé qu'il y ait un loyer qui figure dans le... qu'il y ait un reversement de loyer qui vienne de l'EPCC vers la communauté de communes. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Vous avez dans votre dossier donc les décisions qui ont été prises depuis notre dernier conseil communautaire. Normalement, le prochain conseil communautaire doit avoir lieu le 25 février, pardon, concernant le débat d'orientation budgétaire. On verra en fonction des annonces du gouvernement comment on fera pour le tenir. Peut-être, donc c'est ce que je vous disais, qu'il y aura lieu d'avoir un conseil intermédiaire juste pour passer la délibération de la maroquinerie, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, de la maroquinerie du Sud-Ouest, si on reçoit les documents des Bâtiments de France pour ne pas ralentir ce dossier. Voilà. L'ordre du jour est à... Oui, monsieur Granet.
Oui, merci, monsieur le président. Non, c'est juste dans les questions diverses.
Non, service des domaines. Oui, c'est pas les Bâtiments de France.
Oui, c'est les domaines. Non, oui, pardon, voilà, mais c'est pas à propos de ça que j'intervenais.
C'est l'État.
Non, comme on clôt ce conseil par le PCC, je rappelle que samedi matin prochain, à partir de 10h, il va y avoir l'inauguration d'une exposition de photos qui a été réalisée par un artiste pendant la période de confinement. Le studio était installé dans la boutique éphémère rue Lucien Dumas. Des dizaines de personnes sont venues s'y faire photographier et ont noté un souhait qu'ils avaient pour l'année 2021. Donc tout ça fait l'objet d'une exposition. Alors les mesures sanitaires ne nous permettent évidemment pas de faire cette exposition dans la Mégisserie, dans les bâtiments, qui sont fermés au public, je vous le rappelle. Donc l'idée a été celle d'exposer dehors, donc autour de la Mégisserie, sur ces palissades en bois qui sont là. Et samedi matin, il y aura tout de même une inauguration symbolique. On sera en plein air. L'artiste sera présent. Donc vous êtes évidemment toutes et tous cordialement invités à venir passer voir cette exposition. Et la déambulation se fera à partir de 10h jusqu'à 13h à peu près. Donc voilà, si vous avez l'occasion, venez voir ces photos, qui sont des photos donc de nos habitants, des habitants de la CCPOL qui, passant faire leurs courses rue Lucien Dumas pendant les fêtes de Noël, se sont arrêtés pour se faire tirer le portrait. Voilà, monsieur le président, merci.
Merci et bonne soirée à toutes et à tous.